Bonjour à tous, joyeux Noël à tous aussi. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette responsabilité, comme disait Papa Timothée tout à l'heure, de parler de la part du Seigneur en ce jour particulier, en ce jour de la Nativité. Nous allons lire quelques passages. Je remercie d'abord le Seigneur et ensuite je remercie le pasteur qui nous a fait confiance, le pasteur Joseph Bondo, que le Seigneur le bénisse là où il est, et joyeux Noël à lui aussi, et à toute sa famille. Nous lirons quelques passages, un classique d'une circonstance telle qu'aujourd'hui, Luc 2, Luc 2, 8 à 15. Ensuite, nous lirons un passage du livre des Actes. Et ensuite, nous lirons dans le livre d'Apocalypse. Luc 2, 8 à 15. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et voici sur la terre, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Et le dernier texte de base, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, la partie 5. Le verset 5 à 8, je lis la partie de 5, la deuxième partie. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Père céleste, nous te rendons gloire pour ce moment merveilleux dans ta présence, ce moment où nous célébrons ta venue sur la terre. Oh, nous te rendons gloire parce que tu ne t'es pas limité seulement à venir, tu as accepté de mourir, de ressusciter, de retourner au ciel. Et aussi, Seigneur, tu as prévu dans ton programme de venir chercher ton Église, de venir chercher ton peuple, afin que là où tu es, nous aussi, nous y soyons. Nous te bénissons, Père, pour ces instants. Bénis ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Fortifie ton serviteur, il a besoin de ta grâce. Et l'oreille aussi qui va entendre, touche. Et bénis, Seigneur, afin que cette parole trouve une assise dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je nous proposerai comme thème de réflexion la nativité, gage de la certitude de son retour. Amen. La nativité, gage de la certitude de son retour. Bien sûr, il est important que j'explique quelques termes. La nativité, évidemment, quand on parle de nativité avec N majuscule, on parle simplement de la naissance de Christ à Bethléem. Donc, quand on parle de la nativité, on parle de la naissance de Jésus à Bethléem. Et lorsqu'on parle de la fête de la nativité, vous vous en doutez, c'est simplement la Noël que nous célébrons aujourd'hui. Bien sûr, c'est un mot qui signifie simplement naissance. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un ou d'un personnage, lorsqu'on veut parler de la naissance de quelqu'un, en termes de nativité, il faut adjoindre un attribut. Par exemple, nativité de Jean-Baptiste ou de Marie. Mais lorsqu'on dit simplement la nativité, c'est un terme qui est approprié, relatif à Jésus-Christ. Amen, non? Et le second mot que j'aimerais expliquer, c'est le mot gage. C'est une garantie que l'on donne à quelqu'un comme sûrement, comme sûreté d'une dette. Garantie que l'on donne à quelqu'un comme sûreté d'une dette. Une garantie pour paiement qu'un créancier utilise. C'est-à-dire, quelqu'un vous doit, il met à votre disposition un montant, un dépôt, qui est une sorte de preuve qu'il va à coup sûr s'acquitter de sa dette. Amen, hein? Je prends pour illustration, un passage bien connu de Éphésiens 1,14 pour expliquer le mot gage et pour nous aider à voir comment nous allons comprendre ce thème, la nativité gage de la certitude de son retour. Éphésiens 1,14 dit « Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Un commentaire explique mieux cette réalité. Il dit « Le Saint-Esprit est un gage, c'est-à-dire le premier versement ou la compte en garantie de notre héritage. » Je crois que quand on parle d'acompte, nous tous nous nous retrouvons pour tous ceux qui scolarisent des enfants, pour tous ceux qui ont été à l'école, lorsqu'on voit le paiement d'un acompte, on voit que c'est une avance sur un montant qui viendra. Donc, le Saint-Esprit, à partir de tout ce qu'il opère en nous, de tout ce qu'il opère à travers nous et de tout ce qu'il opère pour nous, il nous donne un avant-goût de ce que le Seigneur veut nous donner en totalité le jour de la rédemption. Amen. Et j'aime une version que j'ai lue, la version Parole de Vie dit, pour le même texte d'Éphésiens 1,14, dit « Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons gloire à Dieu. » Amen. Et la version Parole vivante ajoute encore « Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus pour célébrer sa gloire. Amen. Un gage, un avant-goût. Un avant-goût. Donc, nous revenons à notre thème, la nativité, la naissance de Christ, l'incarnation de Christ dans ce monde. Lui qui n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé pour se rendre semblable aux hommes. Cette incarnation-là, c'est aussi un gage qu'il reviendra. Amen. L'objectif d'un tel message, c'est de nous aider à rester dans le programme divin. C'est-à-dire que lorsque nous regardons les médias, nous avons l'impression que, et c'est ce que nous constatons, le monde essaye de faire des séquences telles que on sort la fête de Noël de son contexte et elle devient pratiquement une fête mondaine. Une fête mondaine avec tout ce qui s'accompagne, tous ces tralala, tout ce que nous savons, vêtements, habillements, jeux, plaisirs. Mais ce n'est pas ça le but premier de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça la première pensée de Dieu. Dieu veut que nous restions dans le plan global du salut qu'il a prévu pour l'humanité. Nous ne pouvons pas nous arrêter simplement à la naissance. Elle est un événement très important parce qu'elle marque le point de départ du plan de Dieu ici sur la terre lorsque lui-même, dans le conseil divin, a décidé de venir. Lorsqu'ils étaient Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, dans sa gloire, dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Voici, je viens pour faire ta volonté. Moi-même, je descends en sacrifice parfait. Et lorsqu'il est venu, bien sûr, c'était le commencement d'un programme. Un programme qui, bien sûr, dans la pensée du Seigneur, est là depuis très longtemps. Donc, la première venue du Seigneur atteste qu'il y aura une seconde venue. Alléluia. La première venue atteste qu'il y aura une seconde venue. Il est venu, bien sûr, pour sauver les hommes du péché. Zacharie, dans sa prière, le père de Jean-Baptiste, dans sa louange, dans Luc 1, 68 à 69, dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. » Un sauveur qui vient. Un sauveur qui vient. Et même, lorsque nous lisons aussi dans Galates 4, 5 à 6, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi et que nous reçussions l'adoption. Amen, hein? Christ est venu pour mourir à la croix. C'est ça le but ultime. Amen, hein? C'est ça le but ultime. Christ est venu mourir afin de sauver les hommes. Il n'est pas venu simplement pour naître. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont cette habitude de venir par intermittence tout au long de l'année, mais dans leur mentalité, ils se disent, non, le jour de la Noël, je ne peux pas manquer au culte. Le jour de la Noël, je ne peux pas manquer au culte. C'est plus que ça. Amen, hein? C'est plus que ça. Ne tombons pas justement dans ce piège de l'ennemi de faire une fixation par rapport à un moment particulier de l'année. Hein, de faire une fixation, c'est-à-dire ces jours est tellement particulier, différent des autres jours. Non, bien sûr nous commémorons, c'est Dieu qui aime les célébrations. Lorsque nous lisons les livres de Lévitique, nous voyons que Dieu a institué les fêtes pour que son peuple se souvienne de ce qu'il a fait. Mais il ne veut pas que nous vidons le sens de ce que lui a fait pour le remplacer par notre tradition humaine. En réalité, pour un enfant de Dieu qui a rencontré Christ et qui a fait une réelle expérience, qui vit en communion avec Dieu, chaque jour c'est Noël. Alléluia. Chaque jour c'est Noël. Chaque jour je loue le Seigneur pour sa venue ici-bas sur la terre, sinon je serais perdu. Je n'ai pas besoin d'attendre le 25 décembre. Chaque jour dans mon cœur, c'est Noël. Chaque jour, c'est Pâques. Alléluia. Chaque jour, je le loue pour sa mort et sa résurrection. Je n'ai pas besoin d'attendre un moment le mois d'avril. Bien sûr, c'est la grande célébration, mais chaque jour, c'est Pâques dans mon cœur. Je loue le Seigneur pour sa mort et sa résurrection. Chaque jour, c'est la Pentecôte. Je désire chaque jour la plénitude de son esprit. Je désire chaque jour le revêtement de son esprit. Je désire chaque jour être conduit par son esprit. Je n'ai pas besoin d'attendre que nous soyons invités au stade ou à la cathédrale. Chaque jour dans mon cœur, c'est la plénitude du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Chaque jour, c'est l'ascension. Je lui exprime ma gratitude parce qu'il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ça, c'est ce que le Seigneur fait. Il est notre souverain sacrificateur. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'au-delà de tes larmes, de tes prières, Dieu aussi intercède pour toi? Christ intercède pour toi? Christ intercède pour toi? Le Saint-Esprit aussi intercède pour toi? Il est monté au ciel et il intercède pour nous. Alléluia! Chaque jour, je me prépare à son retour. Chaque jour, j'attends son avènement. Je l'attends. Chaque jour, je médite le jour où je serai avec lui. Et je me prépare en conséquence. Sais-tu qu'il y aura un tribunal divin? Chaque jour, je me prépare aux noces de l'agneau. Tous ces événements s'inscrivent dans le programme parfait de la rédemption, le plan divin du salut de l'homme. C'est pourquoi nous disons la nativité, ce fait-là qui a eu lieu il y a 2000 ans, c'est un gage. Alléluia. C'est un gage des choses qui viendront. C'est un acompte. C'est un avant-goût. C'est une anticipation des choses qui vont venir. Alors, si vous pensez que le retour du Seigneur, c'est une histoire, c'est un conte, en tout cas, c'est très dommage. Vous risquez d'être surpris désagréablement. Chaque jour, nous nous préparons à cela. Nous nous préparons, nous soupirons après son retour. Amen. Si la naissance de Jésus-Christ et son œuvre sont la résultante, le produit de l'accomplissement des promesses données à l'avance avec des détails inouïs et bouleversants, des détails inouïs, tels, par exemple, Genèse 3.15, c'est la première des promesses. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ésaïe 7.14 que nous avons lu tout à l'heure, et la Vierge deviendra enceinte. Le signe que Dieu promet, que Dieu donne à son peuple, quelle précision! Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9.5 ou encore Michée 5.1 sur le lieu de naissance. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre d'entre les milliers de Juda, mais de toi sortira un roi. Des précisions, des promesses précises qui se sont accomplies. Ensuite, si sa passion et sa résurrection ont été prédites avant lui et par lui-même, des siècles auparavant, nous pourrons lire même le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 17 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. David a écrit cela 10 siècles auparavant, saisi et marqué par l'esprit de prophétie qui était en lui. Si ces choses sont accomplies avec une précision, Ésaïe 53, que nous connaissons bien, si ces événements sont accomplis, croyons aussi que Jésus reviendra tel qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Croyons aussi que Jésus reviendra tel qu'il a promis dans sa parole. La nativité est un gage. Il s'est donné, il s'est offert lui-même en gage pour vous dire « Je reviens, je reviens ». Et comme le dit l'Épître, le salut est plus près de nous depuis le jour où nous avons cru. Amen, hein? Et Jacques 5, au verset 9, nous dit « Le juge est à la porte. » Amen, hein? « Le juge est à la porte. » C'est ce que Jacques 5 nous dit, au verset 9. « Voici le juge est à la porte. Lorsqu'on dit que quelqu'un est à la porte, cela signifie qu'il est en train d'entrer. La porte est prête de s'ouvrir. Amen. Hein? On ne reste pas indéfiniment à la porte. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas? On ne reste pas indéfiniment à la porte. C'est que la porte, si elle ne s'ouvre pas demain, elle s'ouvrira après-demain. Si elle ne s'ouvre pas après-demain, elle peut s'ouvrir dans une semaine. Si elle ne s'ouvre pas dans une semaine, elle peut s'ouvrir dans un mois. Mais le juge est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Le juge est à la porte. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Hein? Et ce moment, c'est un moment pour nous examiner, pour nous sonder, rentrer en nous-mêmes et voir notre propre marche par rapport au Seigneur. À quoi bon fêter Noël? À quoi bon prendre un bon moment de divertissement, un bon repas, si nous ne sommes pas prêts encore pour son retour? Amen. Hein? Nous devons nous préparer à son retour. Oui, le juge est à la porte. Le juge est à la porte. Il est venu dans ce monde comme un enfant faible, démuni, pourchassé par un roi méchant. Hérode, un roi méchant, qui a pourchassé l'enfant. Mais il revient comme un roi, comme un juge. Alléluia. Un roi et un juge. C'est lui qui a le dernier mot. Le juge. Nzengamam. Hein? C'est lui qui décidera qui entrera et qui n'entrera pas. Le dimanche dernier, le pasteur nous a brossé une liste. Et je vais reprendre cette même liste des gens qui entreront et qui n'entreront pas, ou qui n'entreront pas. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Hein? Voici la liste. Et en bon juge, il nous l'a donnée par avance. Pour que nous ayons le temps de mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, que le monde le veuille ou pas, que l'on décide, que l'on oblige à certaines églises de marier les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux, tant qu'ils demeureront dans ces pratiques. Les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les violents, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce sont des gens qui vont s'exclure eux-mêmes. Et là, j'aimerais souligner, il n'y a pas de péché pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et des péchés pour ceux qui connaissent le Seigneur. Non. Le péché reste péché. Alléluia. Le péché reste péché. Nous avons intérêt à mettre notre vie en ordre avec le Seigneur. Le péché reste péché. Le juge est à la porte. Te retrouves-tu dans cette liste? Il est en train de venir. Aucun homme, riche ou pauvre, petit ou grand, noir ou blanc, n'arrêtera le cours de l'histoire. Un seul est le maître de l'histoire. Et il est à la porte. Il revient. Il est entré dans ce monde dépouillé de sa gloire, comme le dit Philippiens 2:5, pour naître dans une étable au milieu de l'odeur du bétail, vêtu de linge, parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels, dans les auberges de l'époque. Il est entré petit, mais il revient dans une grande gloire. Alléluia. Il revient dans une grande gloire. Il est entré petit et il fallait improviser avec les moyens de bord. Marie et Joseph ont dû chercher un endroit en observant les tables, en formant de la paille, en cherchant un endroit qui pouvait accueillir l'enfant. Mais il revient avec toute la préparation possible. Il n'y aura plus d'improvisation. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui s'improvisent. On ne s'improvise pas dans le royaume des cieux. On est préparé. Alléluia. On est préparé. Lui-même a dit, je m'en vais vous préparer des places. Alléluia. Il est allé préparer des places pour venir chercher des gens qui se sont préparés. Alléluia. Est-ce que tu te prépares à cet événement? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? La nativité, c'est un acompte. C'est une anticipation. La suite est en chemin. La suite est à la porte. Il est venu incognito, caché. Seuls quelques hommes, quelques personnes triées sur le volet. Le Seigneur lui-même a choisi les personnes qui devaient. Il s'est révélé. Il a parlé à des mages d'Orient. Il a parlé à des bergers qui ont vu les anges. Il a créé, il a formé juste un petit groupe qu'il a trié. Et ce petit groupe s'est rendu jusqu'à Bethléem dans l'étable. Mais il revient dans une grande gloire et tout œil le verra. Alléluia. Et même ceux qui l'ont transpercé se lamenteront. Il viendra et tout œil le verra. Je n'ose même pas imaginer quel spectacle ce sera. Mais je me réjouis de me préparer. Alléluia. Alors prépare-toi afin que ce jour ne te surprenne pas comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Il est venu comme le serviteur de tous. Et il a travaillé comme un serviteur. Infatigable, il parcourait les routes de la Galilée, de la Judée, de la Décapole, travailleur infatigable qui oubliait même de manger, qui oubliait de se reposer, parce qu'il avait un objectif, accomplir les œuvres du Père. Il avait un objectif final, mourir à la croix pour l'homme. Serviteur de tous, mais il revient comme le maître. Alléluia. Il revient comme le maître, seul capable de réclamer des comptes et de réclamer un salaire de ce qu'il nous a confié. Dans Luc 16, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il revient, le maître dit à l'économe, rends compte de ton administration. Rends compte de ta gestion. Alléluia. C'est lui qui dira aux grands et aux petits, rends compte de ton administration. Toi qui n'aimes pas rendre des comptes, un jour tu rendras des comptes. Alléluia. Toi qui n'aimes pas rendre des comptes, toi qui penses que tu ne dois rien à personne, un jour, quelqu'un se tiendra debout et il te dira, rends compte de ta gestion. Alléluia. Nous sommes appelés à nous préparer à rendre compte chacun pour ce que le Seigneur lui a confié. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 25-27 à ce serviteur qui n'avait reçu que 2 talents. Mais tu pouvais placer, c'est un seul talent, tu pouvais placer le talent dans les banques afin que je le retrouve avec intérêt. C'est lui le seul qui se tiendra capable de nous demander des intérêts. Alléluia. Capable de nous demander des intérêts par rapport à ce qu'il nous a confié. Personne ne pourra le tromper. Personne ne pourra le flouer. Personne ne pourra balbutier. Il connaît toutes les langues. Alléluia. Toutes les langues, il les connaît. Il est venu tout petit, comme tous les enfants, nu, emmailloté de l'ange, mais il revient pour régner dans ses apparats les plus glorieux. Alléluia. Lisons Apocalypse 1. 12 à 17. C'est l'apôtre Jean qui parle. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est venu nu, emmailloté, petit, mais il revient dans ses apparats les plus glorieux. Dans Jean 13, 25, la Bible parle de l'apôtre Jean qui dit que c'est lui qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Alléluia. Il reposait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Mais lorsqu'il a vu la vision de ce Seigneur de gloire, il est tombé comme mort. Il ne pouvait plus supporter. Quelle gloire! Il est à la porte, dans ses apparats le plus glorieux. Pourras-tu supporter sa venue? Es-tu en train de te préparer à sa venue? L'apôtre bien-aimé, l'apôtre de l'amour, lorsqu'il a vu ce Seigneur avec qui il a été, il n'a pas pu supporter, il est tombé comme mort. Il a fallu que le Seigneur lui parle. Il dit, c'est moi. Alléluia. Il revient dans ses apparats les plus glorieux. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Accepte l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Renonce à tes péchés, à tes projets iniques. Change ta vie. Abandonne toutes sortes de mal. Fais la paix avec le Seigneur. Accepte de faire la paix avec l'agneau. Tu éviteras de rencontrer le lion de la tribu de Juda dans toute sa colère. Accepte le Sauveur qui te tend la main aujourd'hui, en ce jour de la nativité. Et tu ne rencontreras pas le juge. Alléluia. Tu rencontreras le Père qui t'accueillera. Fais la paix avec lui. Le Seigneur veut que tu te souviennes. Il a un plan de salut global. Notre destinée est éternelle. Amen, hein? Notre destinée est éternelle. Et en parlant de son retour, de sa rencontre avec lui, c'est cela l'espérance du chrétien. Lorsqu'un chrétien a perdu la vision du retour du Seigneur, lorsqu'un serviteur de Dieu a perdu la vision et qu'il se met à se comporter n'importe comment, il a perdu l'essentiel. Il a perdu l'essentiel. Il aura beau courir, il aura beau faire des œuvres, mais ce seront des œuvres mortes. Ce seront des œuvres qui n'amèneront pas plus loin. N'amèneront pas plus loin. Pourquoi? Cette espérance glorieuse, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 6, 19, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous la possédons dans l'âme. Elle est accrochée dans notre âme. Et l'autre partie pénètre au-delà du voile. Elle nous relie. Notre âme est reliée au Seigneur de gloire qui revient. Es-tu relié? Es-tu branché? Ou es-tu déconnecté? Complètement débranché? Le Saint-Esprit te parle dans ton propre cœur. Nous allons prier. La nativité, c'est le gage qu'il revient. Et il revient dans ses apparats les plus glorieux. Alléluia. Alléluia. l'espoir vient. Les ténèbres s'enfuient devant sa lumière. Et le monde verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia. J'aimerais que tu parles au Seigneur. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée. Toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur, peut-être que c'est après bien des temps que tu te retrouves aujourd'hui. Tu peux lever ta main, toi qui veux te confier au Seigneur. Nous allons prier avec toi. Alléluia. Erabaya Bashita.
Les ténèbres fuient les
rois
d'une lumière. Que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué.
Seigneur te tend la main ce matin. Toi qui as levé la main, lève véritablement votre main en signe d'engagement, en signe d'acceptation au Seigneur. Lève votre main et nous allons prier avec